Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile nosipha lolu suku lanamhlanje.
Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Et nous voulons vous saluer tous où que vous trouviez. Là où nous sommes, ici à la mission, c'est une belle journée ensoleillée. Et nous remercions le Seigneur qui nous ait gardés et qu'il prenne soin de nous. Nous voulons encore prier. Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que nous ayons pu nous réveiller encore ce matin, encore ce jour. Merci pour la santé que tu nous accordes, que nous puissions être éveillés pour entendre ta parole ce matin. Et Seigneur, même si nous-mêmes, nous sentons en bonne santé, mais nous voulons nous souvenir de tous ceux qui sont malades, qui ne sont peut-être même pas en communion avec nous à cause de la maladie. Et Seigneur, que tu puisses poser ta bonne main, ta main de bonne santé sur eux, afin qu'ils puissent retrouver leur force et peut-être se joindre à nous prochainement. Et même, Seigneur, si nous sommes ensemble, à travers les ondes, Seigneur, si tu n'étais pas avec nous dans cette réunion, alors ce rassemblement et notre venue est vaine. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous incliner, nous voulons nous prosterner à tes pieds. Et s'il te plaît, bénis ta parole et parle-nous au travers de ce que nous allons lire. Amen. Tout d'abord, nous voulons encore remercier le Seigneur de nous avoir gardés, mais aussi de la manière dont nous avons vu son aide au cours de la dernière conférence de jeûne que nous avons eue cette semaine passée. Et nous le remercions de la manière dont il est à l'œuvre, de la manière dont il agit dans le cœur des jeunes. Comme nous l'avons dit durant cette conférence de jeunes, nous ne vous voyons pas physiquement, mais nous envisageons, nous pouvons voir avec nos yeux, avec nos yeux d'imagination, que tous ces jeunes étaient assis dans l'auditorium. Mais bon, malgré les circonstances, malgré le fait que physiquement vous n'étiez pas là, nous remercions quand même le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi par les ondes. Et nous avons confiance, avons la foi, que le Seigneur agira et continuera d'agir dans le cœur de chacun et de chacune. Et j'ai confiance que tous les exemples qui nous ont été montrés au cours des différentes réunions, tous les personnages dont nous avons parlé, seront une aide, un exemple pour notre propre vie. Alors, d'habitude, juste après la conférence de jeûnes début décembre, alors nous avons normalement à la mission un certain nombre de réunions particulières. Donc d'habitude, après la conférence de jeûne, nous avons aussi beaucoup de visiteurs durant cette période de Noël. Et nous avons des visiteurs de différentes parties du pays. Donc de différentes régions d'Afrique du Sud. Ces personnes viennent, puisque c'est les vacances en Afrique du Sud. Et aussi parce que c'est la période de l'année où nous célébrons Noël. Et donc, nous voudrions annoncer que malgré les circonstances et le fait que les personnes ne puissent pas nous visiter, nous allons quand même avoir un certain nombre de réunions pour cette période de Noël. Donc nous allons avoir une réunion à 6h30 le 24 décembre pour la veillée de Noël. Donc 6h30. Et le 25 matin, nous aurons une réunion à 11h, donc les heures sud-africaines. Donc nous aurons la réunion le 25 comme un dimanche. Et après, le 25, comme d'habitude, la méditation à 6h30. Et dimanche 27, comme d'habitude, à 11h. Et une réunion le dimanche soir à 6h30. Donc, 24 au soir, la méditation, 6h30. Le vendredi, le 25, à 11h. Et le soir, à 6h30. Et le dimanche, il y aura la réunion du matin à 11h, plus à 6h30 le soir. Et alors que nous avons discuté de ces différentes réunions, je me souviens que, en général, une fois qu'on a passé cette période de décembre, des fêtes, alors nous commençons à préparer déjà la conférence pastorale et la conférence que nous avons à Pâques. Donc nous avons beaucoup à faire, ou nous pouvons faire beaucoup de choses pour que notre lumière brille et pour que l'Évangile atteigne les quatre coins du monde. Ce temps de Noël, ce temps de fête de fin d'année est une merveilleuse occasion où nous rassemblons entre amis, entre familles. C'est un temps de joie et de fête. Donc, j'aimerais et nous aimerions vous encourager, vous, les membres de l'Assemblée, les membres de la communauté. Alors nous aimerions que vous puissiez aussi recevoir ce cadeau, cette joie au cours de ces fêtes. Et bien que nous sommes dans une période où il y a des cadeaux qui s'échangent, mais en même temps, nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne considèrent pas ces fêtes, ces temps de Noël, comme quelque chose de particulier, parce que pour eux, c'est comme le reste de l'année. Il n'y a rien de particulier. La vie continue pour eux comme si c'était le reste de l'année. Mais que Dieu, que le Seigneur puisse être loué et glorifié parce que lui, Dieu le Père, n'a pas retenu son Fils, mais a fait cadeau de son Fils à l'humanité. Il en a fait cadeau à chacun et chacune à travers l'histoire et le monde. Et chacun, tous, nous pouvons recevoir ce cadeau et accueillir ce cadeau qu'est Jésus-Christ le Sauveur. Ce cadeau qui a été donné librement, qui est accessible gratuitement à tous, pauvres, riches, tous peuvent recevoir ce cadeau. Peut-être certains n'ont rien, n'ont pas un centime, l'autre peut-être aisé, riche, mais tous nous pouvons recevoir ce cadeau du Sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces jours, cette période est pour nous un souvenir de ce cadeau. Et nous encourageons donc à ce que nous puissions partager ce cadeau autour de nous et que nous pouvions comme un festin venir nous asseoir à table et apprécier ce cadeau comme un repas de fête, comme un festin. Donc nous voulons aussi remercier les dirigeants de la mission que dans cette période de joie, de fête, qu'ils aient trouvé et qu'ils aient jugé utile que nous célébrions de manière particulière aussi cette fête de Noël, cette venue du Sauveur. Donc dans cette période où beaucoup sont en vacances, même des églises, les portes sont fermées parce que le pasteur est en vacances. Et donc nous voulons remercier que ici à la mission, nous puissions avoir ces réunions, nous puissions avoir cette occasion de nous rassembler. Et même si peut-être matériellement, tu ne peux pas te réjouir parce que tu n'as pas les moyens pour faire des cadeaux ou ce n'est pas une période si bonne pour toi. Mais rappelle-toi que cela ne t'empêche pas de partager ce cadeau qu'est Christ avec ceux autour de toi. Donc nous remercions, voulons aussi remercier le Seigneur pour la technologie, pour les moyens qu'il nous donne, techniques, pour nous atteindre un certain nombre de personnes. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler et dire, malgré la technologie, malgré les techniques que nous pouvons utiliser, j'aimerais juste rappeler en disant, prends garde que Satan, que le diable n'utilise pas cela pour te détourner. Pour te faire tomber et détourner l'utilité de cette technologie. Donc, comme nous avons l'occasion de suivre les réunions, de s'asseoir, et comme si on pourrait dire, Dieu te présente sur un plateau le meilleur. Il te suffit juste de recevoir, d'écouter. Mais le Satan, le diable, lui, il sait aussi faire pour te distraire, pour t'occuper avec tellement de choses. Peut-être alors que tu es en train de préparer ta salade, ton repas, et tu te dis, non mais c'est bon, je suis la réunion, mais tu fais une autre chose, tu es occupé à d'autres choses, et quelque part le diable te vole quelque chose, te vole ce que tu aurais pu recevoir de la part du Seigneur. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, te fasse grâce à toi, à moi, alors que nous allons célébrer le Noël et beaucoup célèbrent cette période de la mauvaise manière. Ils célèbrent cette période pour être encore plus méchants et plus mauvais, mais ce n'est pas ce que nous voulons et nous sommes reconnaissants de pouvoir célébrer la venue de notre Seigneur. Alors nous voulons lire un passage.
Siyabonga nje bekudlula kulokho. Ngicela kwabana amaBhayibheli sifunde izwi encwadini ngokaLuka isahluko sesibili. Sizofunda kusukela evesini lamashumi amane nantathu.
Donc, ce que j'ai pu dire était une introduction. Alors maintenant, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et verset 43. Donc l'évangile de Luc 2, 43. Il est dit, donc j'ai dans la version Semeur, « Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. » Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Verset 46, trois jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Nous voulons encore prier. Seigneur, voilà ta parole. Cette parole, que des paroles humaines, la bouche, l'esprit, les pensées de l'homme sont bien incapables d'en comprendre son intégralité, d'en comprendre sa ampleur. Mais Seigneur, que tu puisses oindre ces paroles, que tu puisses parler à nos cœurs, au travers de ces paroles. Amen. Donc, en introduction, j'ai mentionné le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, à savoir son Fils. Mais j'aimerais maintenant parler d'un sujet un peu différent. Ici, dans ce passage, nous lisons l'histoire de Jésus lorsqu'il est parti en voyage avec ses parents. Et ce voyage les a emmenés à Jérusalem, où ils ont alors passé quelques jours, donc à Jérusalem. Alors que le jour est venu où ils sont repartis pour Nazareth, en chemin pour la maison, les parents de Jésus ont réalisé que quelqu'un manquait à l'appel. Quelqu'un manquait, quelqu'un d'important pour ces parents-là, pour ce couple de parents. Quelqu'un qui était important avait disparu ou n'était plus avec eux. Et pourtant, ils avaient marché ou ils avaient voyagé pendant une journée entière avant qu'ils ne réalisent que Jésus avait disparu. Et bien qu'il n'était pas avec eux, il n'était pas troublé parce qu'il s'imaginait que Jésus était dans le groupe, parmi les autres qui étaient en voyage, peut-être avec des amis ou de la parenté. Mais lorsque le soir ou plus tard dans la journée, ils ont commencé à poser des questions, à demander où est Jésus, alors ils sont venus à la constatation consternante que Jésus n'était plus avec eux. Et après avoir réalisé cela, ils ne sont pas dit « Oh, bah, ils n'ont pas accepté la situation comme telle en se disant « Oh, bah, tôt ou tard, on va bien le retrouver. » Non, ils se sont mis en marche. Ils ont commencé à chercher Jésus. Ils étaient troublés que Jésus ne soit plus avec eux. Et donc, dans cet état, ils ont alors commencé à prendre les mesures pour retrouver Jésus. Ils ont commencé à le chercher de manière organisée. Et quand ils l'ont découvert, quand ils ont vu que Jésus n'était pas avec eux ou dans le groupe, ils ne le trouvèrent pas, aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Donc ils ont pris des mesures et nous lisons qu'ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Et on peut imaginer qu'ils étaient troublés, qu'ils étaient, peut-être on pourrait même dire, en panique. Ils étaient consternés de ne pas trouver Jésus. On peut imaginer même qu'ils n'ont pas dormi. Et au bout de 3 jours, il est dit qu'ils les trouvèrent au bout de 3 jours assis au milieu des maîtres, écoutant, posant des questions. On a l'impression qu'il était là, tout à fait tranquille, quand j'ai lu cela, cela m'a troublé, cela m'a interpellé. Je me suis dit, mais quel est cet enfant? Quel enfant Jésus a-t-il été? Alors mes amis, dans ce monde qui est le nôtre, parce que dans notre monde, un certain nombre de personnes continuent leur vie comme si de rien n'était, alors qu'ils ont perdu cet enfant qu'est Jésus. Peut-être ils chantent, peut-être ils témoignent, peut-être ils font tout ce qu'on attend d'un chrétien. Et pourtant, cet enfant-là, Jésus, n'est plus avec eux. Ils chantent dans la chorale, ils prêchent peut-être même, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire par leur propre force. Mais ils ne sont pas préoccupés, ils ne sont pas troublés que Jésus n'est plus là. Et ils ne se mettent pas en marche, ou ils ne prennent pas les mesures pour retrouver Jésus. Certains même abandonne Dieu, abandonne l'église, l'assemblée, peut-être même en commençant une autre église parce qu'ils veulent prêcher eux-mêmes et ils se lancent, on dirait, dans une nouvelle opération de création d'église. Mais Jésus n'est plus avec eux. Et ils laissent en arrière ce que cet enfant leur a enseigné, et ce qu'on leur a enseigné par rapport à cet enfant. Et peut-être que ces personnes-là sont intéressées à faire quelque chose pour Jésus, mais sans Jésus, sans cet enfant qui n'est plus avec eux. Peut-être, au début de ta vie chrétienne, tu as été enseigné à t'humilier. Tu as été enseigné à accepter que quelqu'un vienne et te reprenne et t'aide en te reprenant, en te disant, voilà, sur ce point où tu n'as pas réagi, où tu n'as pas agi de la bonne manière. Et rappelle-toi, au début, tu étais prêt à l'accepter, à t'humilier. Mais maintenant, quand cette même personne vient te voir, alors tu te dis, mais pour qui tu te prends? Et tu prends ça de mauvaise manière. Et je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment cela... Quel effet cela a dû être, ou comment... Les parents de Jésus ont réagi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont, ils ont mis tout en œuvre pour retrouver Jésus? Alors, enfant de Dieu, est-ce que je peux te poser la question? Es-tu préoccupé que Jésus est avec toi? Et si tu réalises que Jésus n'est plus avec toi, est-ce que tu mets tout en œuvre pour retrouver Jésus? Même dans ce temps de Noël, de temps de réjouissance, de joie, qu'est la période de Noël. Et pourtant, dans cette période, pour certains chrétiens, et peut-être que durant cette période de Noël, même pour certains chrétiens, ils sont amenés à faire un certain nombre de choses, à se réjouir de la mauvaise manière. Mais ils se disent, non, mais juste, je fais ça une fois, mais ils ne réalisent pas qu'ils perdent le Seigneur en faisant cela. Et vous, jeunes gens, peut-être vous prétendez être chrétien, et alors vous avez le danger que durant ces fêtes, vous soyez emmené, vous soyez impliqué à célébrer Noël de la mauvaise manière, peut-être même de manière immorale, dans la débauche. Et alors, vous perdez le Seigneur sans vous préoccuper. Peut-être certains jeunes gens partent en vacances et se disent « Ah, mais maintenant, c'est les grandes vacances, c'est l'été. » Et alors, on en profite pour s'habiller d'une manière indécente. On expose son corps. Et même jusqu'au point de se prendre en photo et de diffuser cela sur les réseaux sociaux. Et quand on leur demande en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, mon ami ?»« Non, mais écoute, c'est les vacances, c'est les grandes vacances, c'est la fin de l'école, c'est l'été. Je fais juste ça durant cette période. Le reste de l'année, c'est pas pareil. Mais là, c'est la fin d'année, j'en profite. Alors, laisse-moi te poser la question. Où est Jésus, alors, à ce moment-là? Est-ce qu'il est encore avec toi ou l'as-tu laissé en arrière? Peut-être, tu vas me dire ou tu vas dire, mais non, Jésus est avec moi. Mais tu es comme les parents de Jésus qui pensaient que Jésus était avec eux, mais Jésus n'était plus avec eux. Et ils ont poursuivi leur voyage sans réaliser que Jésus n'était plus avec eux, malgré le fait qu'ils pensaient que Jésus était avec eux. Donc cela me rappelle l'histoire d'une dame que je connais. Et c'était une dame qui avait des dons pour prêcher, pour chanter. Et même certains disaient, mais quand elle, dans la chair ou devant, certains disaient, c'est comme si les anges venaient et descendaient. Elle était donc capable d'avoir un charisme. Et si vous avez voulu donner un micro, alors elle était capable de remuer les foules, d'impressionner les foules, au point, comme je l'ai dit, que certains disaient « Ah, c'est comme si des anges sont parmi nous ». Et dans cette assemblée, les personnes un peu plus âgées se sont quand même posé des questions en disant « Mais comment est-ce qu'elle peut se comporter de cette manière ?» Et ils se disaient « Non, bon, c'est peut-être nous qui nous sommes un peu vieux jus. » Et pourtant, elle était capable d'être sur la scène, elle était même capable de monter sur la chaise et de remuer, de remuer les foules. Donc elle avait un don. Je ne sais pas si c'était un don divin. On pouvait se poser la question, est-ce que c'est vraiment un don divin ? Et quelque temps après, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas bien. Et alors, elle a dû aller voir un médecin. Et alors, on a découvert que non seulement elle était enceinte, mais l'enfant qu'elle portait était mort. Et alors, il a fallu qu'à un moment donné, elle rende publique cette nouvelle. Et alors, elle l'a fait sur les réseaux sociaux. Et la nouvelle s'est alors répandue de partout. Et alors, les personnes plus âgées de l'église, de l'assemblée, se sont alors levées et ont pleuré, ont commencé à pleurer par rapport à cette situation. Et alors ils sont allés voir cette dame en lui disant, ils ont partagé sa peine et ils lui ont dit, mais alors quand est-ce allons-nous organiser le funérailles de cet enfant? Et alors il a répondu, mais quel funérailles? Vous parlez de quoi? Il a dit, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un enterrement? Et elle a dit, mais je ne peux pas m'imaginer me tenir devant une tombe d'un enfant que je n'ai jamais connu. Et alors les personnes âgées ont dit, mais qu'en est-il de tous ceux et celles qui savent la nouvelle que tu étais enceinte de cet enfant? Alors elle a répondu, non, nous ne devons pas nous préoccuper de ce que les gens disent. Mais moi, je ne peux pas me faire à l'idée d'avoir une tombe pour un enfant que je n'ai pas mis au monde. Alors, en utilisant cette histoire, voilà le point que je voudrais mettre en avant. Peut-être tu portes un enfant et dans ton sein et tu témoignes, tu remues les foules, tu es en avant et pourtant l'enfant qui est en toi est mort. Alors dis-moi, là où tu es, là où tu es dans ton assemblée, dans ton quartier, peut-être certains d'entre vous ont quitté leur église en pensant créer un nouveau mouvement, créer une nouvelle église. Mais la question que je te pose, est-ce que l'enfant Jésus est encore avec toi? Est-il toujours vivant? Est-il encore avec toi? Peut-être, oui, tu es capable de lire la Bible, tu es capable de... tu connais la théologie, tu es capable de prêcher et de parler sur un verset. Et peut-être même les gens crient ou acquiescent à ce que tu dis en disant « Alléluia, Amen ». Mais la question que je te pose, est-ce que l'enfant Jésus est encore vivant? Peut-être y a-t-il eu une maladie qui a tué cet enfant en toi? Peut-être est-ce cet orgueil où tu es incapable de te soumettre, cet orgueil où tu es incapable d'accepter qu'on te dise quoi que ce soit. « Et cette maladie a tué cet enfant. Et rappelle-toi, quand tu étais petit, à tes propres yeux, tu étais prêt à accepter la correction, la réprimande, les conseils, peut-être même de la part de personnes qui te semblent insignifiants, petits. Mais es-tu encore aujourd'hui capable d'accepter cela? Peut-être maintenant, il y a des signes que l'enfant que tu portes est malade. Il montre des signes de mauvaise santé. Et alors, il est temps encore de prendre des mesures pour soigner cet enfant, pour lui redonner des forces avant qu'il ne meure complètement. Peut-être y a-t-il des signes d'avertissement dans ta vie qui te montrent que quelque chose ne va pas. Peut-être est-ce la colère qui monte, est-ce l'irritation qui monte dans ton cœur quand les choses ne vont pas. Et cela est un signe, devrait être un signe que cet enfant est malade. Cet enfant ne peut pas vivre, cet enfant ne peut pas être en bonne santé lorsque il y a du chaos spirituellement autour de lui. Et tu ne réalises pas que ce chaos, ce trouble spirituel que tu laisses dans ton cœur, et tu ne réalises pas que cela est en train de tuer cet enfant en toi. Cet enfant ne peut pas être en bonne santé en vivant dans un environnement où tu es constamment en train de critiquer, de murmurer, de te plaindre, de pointer les fautes des autres, de pointer du doigt les autres. Un enfant, l'enfant Jésus, ne peut pas survivre dans un tel environnement. Peut-être tu vas réussir à tromper ceux qui ne connaissent pas comment agit l'Esprit, comment agit le Saint-Esprit. Mais cela n'est qu'un jeu, cela n'est qu'un show. Tu montres une façade, mais à l'intérieur, et peut-être toute cette situation t'a même à t'opposer à ceux et celles qui t'ont aidé, à qui tu es redevable. Et alors tu cherches les fautes et tu pointes du doigt. Et tu suis et tu n'es plus capable de te soumettre et d'accepter les conseils de ceux qui t'ont aidé dans le passé. Et peut-être même tu suis d'autres personnes qui eux aussi ont perdu le Seigneur, pour qui le Seigneur est mort. Mais nous voyons ici, les parents de Jésus étaient troublés. Non seulement ils étaient troublés, mais ils ont pris les mesures pour retrouver le Seigneur. Et ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils retrouvent Jésus. Alors, la question que je te pose, est-ce que tu peux avoir la paix dans ton cœur lorsque tu médites, lorsque tu pointes du doigt les autres, lorsque tu critiques ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu peux avoir la paix dans ton cœur, alors laisse-moi te dire, si tu as un tel comportement, l'enfant est mort, l'enfant ne vit plus en toi. Comment peux-tu être confortablement assis dans ton canapé et être tranquille alors que l'enfant Jésus n'est pas avec toi? Alors si c'est le cas, si tu es serein malgré le fait que l'enfant Jésus n'est plus avec toi, alors laisse-moi te dire, ton état spirituel est mort. Peut-être en tant que jeune fille, d'autres filles viennent te voir et sont capables de partager, de te raconter leurs histoires de garçons et leurs histoires de débauche. Et toi, cela ne te dérange pas. Peut-être même tu participes à la conversation, tu rajoutes ton grain de sel et tu rigoles à propos de toutes ces histoires de débauche ou d'histoires mauvaises. Alors laisse-moi te dire, si c'est le cas, alors ton enfant Jésus est mort. L'enfant Jésus n'est plus avec toi. Et peut-être toi, jeune Jean, c'est la même chose. Les autres, tes amis, viennent avec des blagues salaces, avec toutes sortes de choses qu'ils racontent par rapport à leurs copines. Et toi, tu participes à la conversation et tu rajoutes tes commentaires. Alors, si c'est le cas, laisse-moi te dire, l'enfant Jésus en toi est mort ou il n'est plus avec toi. Et vous, mère, Marie, femme, à la maison, qu'en est-il de la relation entre vous? Est-ce que cette relation entre père, mère, entre mari et femme, démontre que Jésus est en bonne santé, que Jésus est avec vous? Ou est-ce qu'au contraire, cette relation et tout ce que vous pouvez vivre démontre que l'enfant Jésus n'est plus là? Peut-être toi, épouse, tu es mécontente de ce que tu reçois de ton père, de ton mari. Et peut-être tu compares et tu regardes autour de toi en disant « Oui, mais les voisins, les Martin, les Dupont, ils ont plus que moi et ils sont différents et moi. » Et alors tu commences à te plaindre et tu critiques ton mari. Peut-être tu veux les mêmes meubles ou la même voiture que ton voisin en disant ouais, mais regarde le voisin, la voiture qu'ils ont. Et regarde la voiture que nous avons. Et tu es ainsi, tu te plains. Et tu n'es pas content, tu n'es pas satisfaite avec ce que tu as. Alors, si c'est le cas, laisse-moi te dire, l'enfant Jésus n'est plus avec toi. Alors, apprenons de cette histoire que nous avons lue. Apprenons des parents de Jésus qui, lorsqu'ils ont réalisé que Jésus n'était plus avec eux, alors ils se sont... Ils ont pris les mesures, ils ont pris la mesure de la situation et alors ils ont cherché Jésus jusqu'à ce qu'ils l'ont retrouvé. Alors que les autres te complimentent, qu'ils t'applaudissent, qu'ils te louent tes qualités, alors ne te satisfais pas de cela. Si l'enfant Jésus n'est plus avec toi, alors oublie ce que les gens disent de toi et mets-toi en marche pour retrouver cet enfant. Peut-être certains mentionnent et louent en te disant quel héros, quel courage tu es. tu es capable de dire les quatre vérités à qui tu veux, mais peut-être quand tu es à la maison tout seul, quand tu es en dehors de toutes ces louanges qu'on te fait, de tous ces lauriers qu'on te dresse, peut-être te dis-tu, mais non, ce n'est pas le cas. Peut-être cette situation, tu es conscient que ce n'est pas juste. Tu es conscient que l'enfant Jésus n'est plus avec toi. Alors, mets-toi en marche pour retrouver Jésus. Peut-être même tu es prédicateur. Tu as des prédicateurs qui, surtout une nouvelle génération, qui sont capables d'être charismatiques, d'avoir de l'éloquence où les gens le louent et reconnaissent le don d'éloquence que tu as. Mais pourtant, tu es incapable de te soumettre aux aînés. Tu es incapable d'accepter leurs conseils ou même leurs remontrances. Alors laisse-moi te dire, si c'est le cas, tu as perdu le Seigneur. Peut-être même tu es populaire parce que tu utilises le langage de ce monde. Tu es en phase avec les demandes du monde d'aujourd'hui. Tu es en phase avec, tu es in, on dirait, mais tu as perdu l'enfant Jésus. Peut-être, toi, parent, tu as rabaissé le standard dans ta famille. Le standard que tu avais à un moment donné, tu l'as rabaissé en laissant tes enfants aller dans le monde et tu abandonnes l'évangile, tu abandonnes la foi parce qu'au lieu de maintenir le standard divin, tu suis tes propres enfants dans les voies de ce monde. Et eux disent, « Ah, mais mes parents sont sympas parce qu'ils comprennent ma situation. » Et alors, toi, parent, tu as perdu, tu as descendu ton standard, tu as perdu Jésus. Et peut-être la pourriture est rentrée dans ta famille, peut-être même dans ton église. Et cela, on peut le voir par ton langage, par ton comportement. Peut-être même tu dis, mais quel est le problème d'avoir un copain, une copine? Quel est le problème de passer mon temps devant la télé? Et toi, parent, si c'est le cas, alors ne cherche pas la faute et ne rejette pas la faute sur tes enfants en disant, non, mais c'est mes enfants qui font ceci ou c'est mes enfants qui font cela. C'est toi, père, qui as la responsabilité de maintenir le standard que Dieu t'a donné. Et malheureusement, aujourd'hui, bien des parents utilisent les médias comme un babysitter, comme une nounou, et pour pacifier les relations, alors tu donnes un portable ou tu donnes une tablette ou un écran à tes enfants pour être tranquille. Et alors tu nourris tes enfants de toutes sortes de choses juste par paresse pour pacifier les relations. Alors laisse-moi te poser la question. Est-ce que Jésus est encore avec toi? Est-ce que Jésus vit en toi? Ou laisse-moi te dire, dans un certain nombre de ces situations, tu as oublié Jésus en arrière et tu ne t'en rends même pas compte. Et peut-être même tu dis, oh, mais nous avons des responsables qui comprennent notre situation. Nous avons des responsables qui comprennent dans quel monde, dans quelle génération nous vivons. Donc, c'est bon, nous pouvons nous contenter de cette situation. Mais pourtant, nous ne comprenons pas la situation, nous ne réalisons pas que Jésus n'est plus là. Les parents de Jésus, lorsqu'ils ont réalisé que Jésus n'était plus avec eux, ils sont retournés en arrière. Et de manière, ils ont repris le chemin qu'ils avaient pris et ils ont retrouvé Jésus. Alors toi de même, si tu veux retrouver Jésus dans ta vie, alors fais demi-tour. Et reprends le chemin, réexamine le chemin que tu as pris les derniers temps pour retrouver Jésus. Et cela nous montre que nous devons chercher, nous devons retourner en arrière. Nous devons abattre ce mur de séparation qui a été dressé entre nous et le Seigneur, afin de retrouver cette communion avec lui. Et la Bible nous dit, si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons pas. Le Seigneur se laisse trouver par celui, celle qui le cherche de tout son cœur. Chacun, chaque personne dans l'Église a la responsabilité de chercher le Seigneur, de s'assurer individuellement de le trouver. Ce n'est pas quelque chose en groupe, mais chacun doit chercher, chacune doit chercher le Seigneur individuellement. Personne ne peut le faire pour toi. Le pasteur ne peut pas le faire pour toi. Il ne veut pas chercher Jésus à ta place. Non, c'est à toi. Toi de faire l'effort de chercher Jésus. Alors, laisse-moi poser la question. Où est l'enfant Jésus? Est-il encore dans ta vie? Est-il encore vivant? Et quels sont les signes qui montrent que Jésus est vivant dans ta vie? Dans ce temps que nous vivons, dans les temps, dans la génération dans laquelle nous vivons, la question est, est-ce que Jésus est vivant en toi? Est-ce qu'il est toujours avec toi? En ces temps qu'aujourd'hui, où les jeunes se moquent et méprisent les aînés, et ils disent « Ah, maintenant c'est le temps des jeunes, c'est à nous de diriger, nous n'avons plus besoin des personnes âgées, nous n'avons plus besoin des aînés, nous sommes assez grands, nous n'avons plus besoin de nos parents, et c'est à nous de diriger. » Alors dis-moi, est-ce que dans une telle situation, avec une telle altitude, tu a toujours le Seigneur avec toi? Est-il toujours vivant? À cause de cette jeune génération, rappelle-toi que tu es né peut-être hier, peut-être tu n'as même pas le bac, peut-être tu n'as même pas un diplôme universitaire, et tu penses tout savoir. Et alors, spirituellement, il en est de même. Tu n'as rien vécu, tu n'as aucune expérience, mais tu penses tout savoir et tu penses pouvoir donner des leçons à ceux qui sont passés devant nous. Et peut-être, pour montrer que tu as une sorte d'expérience spirituelle, tu es capable de montrer certains signes, comme il se trouve que on a certaines personnes qui sont capables de parler en langue, même si ce n'est quelque blabla incompréhensible. Et certaines sont impressionnées par un tel comportement. Mais est-ce que Jésus est encore vivant en toi? Est-ce que tu méprises les ennemis, ces aînés même qui attendent que tu montres des signes? Ces aînés attendent que tu démontres par ta vie que tu as vécu quelque chose spirituellement. Et ce sont là même ces personnes aînées, même la même que tu méprises maintenant en tant que jeune, dont tu dis que tu n'as plus besoin, que maintenant le pouvoir doit être aux jeunes. Alors laisse-moi te dire, nous attendons que de voir dans ta vie, nous attendons de voir les fruits que Jésus est effectivement dans ta vie, que Jésus est encore vivant, que Jésus est encore avec toi, avant de te débarrasser, si on peut dire ainsi, de personnes plus âgées, de personnes plus expérimentées. Alors à toi de nous démontrer que Jésus est encore vivant et qu'il est encore avec toi. Alors arrêtons de jouer, arrêtons de faire un show, arrêtons de voir une façade et cherchons le Seigneur. Retournons en arrière pour chercher et retrouver Jésus. Certains disent « Non, il nous faut utiliser d'autres moyens pour attirer les gens dans l'église. Nous devons avoir des activités, il nous faut de la musique, il nous faut avoir de spectacles ou de l'amusement pour attirer les gens dans l'église. » Et peut-être effectivement que cela attire. Mais la question est, est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est avec toi en tout cela? Parce que si tu as Jésus avec toi, tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour attirer les gens. La personne de Jésus seul attire les gens. En ces temps dans lesquels nous vivons, cette période de l'année, les gens vont aller en vacances pour se reposer, se relaxer. Alors, laisse-moi te dire, est-ce que l'image que tu présentes au monde, est-ce que l'exemple que tu donnes, est-il la démonstration que Jésus est encore avec toi, que Jésus vit en toi? Même là, peut-être, quand tu es sur la plage ou que tu es en vacances, est-ce que lorsque les gens te voient, est-ce qu'ils sont capables de voir une différence? Est-ce qu'ils sont capables de voir cet enfant Jésus en toi? Est-ce qu'ils en arrivent à la conclusion en disant, mais quand j'observe ces gens, ils ont quelque chose que je n'ai pas? Peut-être. Nous devrions remercier le Seigneur pour les restrictions que les autorités ont dû mettre en place cette semaine concernant les plages et un certain nombre de restrictions qui ont été mises en place à cause du Covid. Même si tu es resté à la maison et que tu ne vas pas à la plage ou en vacances, alors est-ce que tes voisins réalisent en se disant « Mais tiens, cette famille est différente, cette famille est une famille chrétienne » parce que la manière dont ils interagissent ensemble, la paix qui règne dans leur famille et par le comportement des enfants, nous voyons qu'il y a une différence. Ou est-ce qu'au contraire, ils disent non, mais cette famille, c'est comme tout le monde. Il n'y a aucune différence. On est tous dans le même bateau à avoir les mêmes problèmes. Nous sommes dans un temps de grâce, nous sommes dans un temps de joie où les gens se font des cadeaux. Et alors, est-ce que c'est aussi un temps pour toi où tu es capable de faire des cadeaux autour de toi, non pas seulement matériellement? Mais est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce qu'il est encore avec toi? Ou tu es capable de prendre soin, de montrer aux voisins et aux gens qui t'entourent que Jésus vit en toi? Peut-être tu as acheté des habits pour tes enfants. Peut-être tu as acheté des habits pour Noël. Peut-être des habits pour le 26 et puis des habits pour le Nouvel An. Ainsi, tu as acheté toutes sortes d'habits. Et ton voisin à côté, en face, est en haillon. Et tu n'es même pas préoccupé. Ton cœur n'est pas troublé par la situation de ton voisin. Alors, si c'est le cas, si tu ne penses qu'à toi-même, si tu es préoccupé que par ta petite personne, alors laisse-moi te dire, l'enfant Jésus en toi est mort. Quel exemple suivons-nous? Est-ce que nous suivons l'exemple du Seigneur Jésus, de Dieu lui-même, qui n'a pas épargné son Fils? Et quand on voit ce que Jésus a fait, qu'il a été prêt à tout abandonner, le ciel, sa position, toutes les richesses de son Père, pour venir sur la terre et souffrir en cadeau, alors qu'en est-il de nous? Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne l'assurance de savoir que Jésus est toujours avec nous, où que nous nous trouvions, que nous puissions avoir cette assurance que Jésus est encore avec nous. Nous voulons remercier le Seigneur pour cet enfant Jésus. Parce qu'effectivement, Jésus a été un enfant différent, unique parmi tous les enfants qui ont vécu dans ce monde. Déjà même avant sa naissance, après sa naissance, dans sa jeunesse, dans son enfance, Jésus était différent. Il était un enfant particulier, incroyable. Des anges ont quitté le ciel et sont descendus le jour de sa naissance et ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre pour les hommes paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les rois de ce monde, les gens sages, les mages sont venus et se sont courbés, se sont inclinés, prosternés devant ce bébé, cet enfant, en reconnaissant qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, le Sauveur. Et même ses parents étaient émerveillés par ce qu'ils ont vécu à cause de cet enfant que Dieu leur avait confié. Et à 12 ans, voyons Jésus alors qu'il était en voyage avec ses parents. On voit qu'il avait quelque chose en lui qui le consumait, quelque chose de différent qui consumait son être intérieur. Oui, bien qu'il soit né de manière ordinaire, il était évident que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire, n'était pas un enfant comme les autres. Parce que quand on voit les gens du monde, de ce monde, sont préoccupés avec leurs propres buts, avec leurs propres objectifs, avec leurs propres choses. Mais voyons, cet enfant à 12 ans, il était préoccupé par les choses du ciel, par les choses divines, les choses du ciel, là où il est, d'où il est venu. Est-ce qu'on peut imaginer un tel enfant? Imaginez ses parents qui rentrent pour Nazareth et qu'ils réalisent que Jésus n'est plus avec eux. Nous voyons au début, ils ont pris un peu à la légère en disant « Oh, il doit être par là ». Et ils ont continué leur voyage. Ce n'est seulement qu'après une journée de voyage que tout d'un coup, les parents, avec choc, ont réalisé que Jésus n'était plus avec eux. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont fait demi-tour pour retrouver Jésus. Nous avons entendu que cela doit être une leçon pour nous, une leçon, un exemple de la manière dont nous devrions, dans laquelle nous devrions chercher et nous assurer que Jésus est avec nous en tout temps. Et quelle chose terrible lorsque nous réalisons que Jésus n'est plus là. On peut prendre les choses à la légère, on peut penser que Jésus est là, mais cela nous montre que cette histoire nous montre que même un enfant de Dieu a le risque de marcher, d'avancer dans la vie sans réaliser que Jésus n'est plus là. Peut-être même en tant que parents, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos enfants. Un certain nombre de choses ne sont pas comme elles devraient être, et tu continues ton voyage comme si de rien n'était. Mais toi, parent, tu continues la vie, tu continues ton voyage, sans réaliser que Jésus n'est plus là. Mais nous voyons, quand les parents de Jésus sont retournés à Jérusalem, ils ont finalement retrouvé leur fils au bout de 3 jours. C'est incroyable, une telle histoire. Alors je me pose la question, je me dis, mais comment, quand les parents sont retournés à Jérusalem, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que Jésus avait... Est-ce que Jésus était resté dans le temple pendant ces 3 jours? Est-ce qu'il est resté à Jérusalem? Je me pose même la question, je me dis, mais est-ce que Jésus n'est pas resté dans le temple alors qu'il était avec ses parents, quand ils sont allés donc à Jérusalem pour la fête, et Jésus est alors resté dans le temple. Et ils l'ont retrouvé là, dans le temple, en train de poser des questions à ceux qui, dans le temple, étaient occupés. Et ainsi, Jésus était occupé avec ceux qui le consumaient, ceux qui faisaient sa vie, et au point même que les prêtres étaient impressionnés par sa sagesse et par ce qu'il disait. Et quand ses parents l'ont retrouvé, l'ont vu dans le temple, ils furent très étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. » Et nous connaissons ce que Jésus a répondu en disant, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Alors, nous devons... nous poser la question, est-ce que cet enfant est occupé avec les choses de son père? Nous ne trouvons pas Jésus en disant « Oh, excuse-moi, cela fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Jésus pose la question à ses propres parents en disant « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, des affaires du ciel ?» En quelque sorte, on pourrait dire « Mais est-ce que vous êtes surpris que je sois occupé avec les affaires de mon Père ?» Alors, là aussi, c'est un autre point, une autre question qui se pose à nous. Est-ce que nous sommes préoccupés avec les choses du Père? Où est-ce que nous sommes? Avec quoi passons-nous notre temps? Est-ce que nous sommes préoccupés par les choses divines, par les choses du ciel? Si nous sommes préoccupés avec les choses du ciel, alors on nous trouvera alors sur le même chemin que celui qui est venu pour sauver le monde. Si nous sommes occupés avec les choses divines, alors nous sommes occupés avec la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Jésus a dit lui-même, il faut que je m'occupe et que je fasse ce pourquoi j'ai été envoyé, mon œuvre. Jésus a dit, l'œuvre que j'accomplis est celle de ce de qui m'a envoyé. Donc Jésus avait compris quel était son appel. Il savait la raison pour laquelle il avait été envoyé sur terre. Et il était conscient du temps limité qu'il avait pour accomplir ce que Dieu l'avait envoyé de faire. Il était conscient qu'il avait peu de temps pour accomplir tout ce que son Père voulait et la raison pour laquelle il avait été envoyé. C'est pourquoi, déjà à 12 ans, il était préoccupé par les choses du ciel. C'est pourquoi Jésus était occupé avec des questions, avec des sujets qui attirent les gens. Non, Jésus n'était pas occupé avec des choses qui amènent les autres à médire, à raconter toutes sortes de choses, à débattre d'un certain nombre de sujets. Jésus savait, il était conscient qu'il devait être préoccupé avec l'œuvre de salut pour laquelle il a été envoyé sur terre. Comment il allait amener, aller faire que les gens allaient être réconciliés avec Dieu. Comment il allait faire l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé. Jésus était occupé à amener la lumière à ceux qui se trouvent dans les ténèbres. C'est pourquoi il a répondu, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Donc là, nous avons un garçon de 12 ans qui répond à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» En anglais, il est dit « de la maison de mon père ». Jésus n'était plus avec ses parents et pourtant ils l'ont retrouvé dans le temple. Et peut-être toi aussi, tes parents ne te retrouvent pas, mais quand ils te cherchent, ils te retrouvent au cinéma ou occupé à regarder de la pornographie sur ton portable ou occupé à toutes sortes de choses qui t'amènent la mort spirituelle et non pas la vie. Jésus n'avait pas cet état d'esprit, il n'avait pas cette pensée, il n'avait pas cette attitude. Il était occupé avec les choses du ciel, avec les choses en relation avec son Père. Il n'était pas occupé avec des choses vaines et inutiles qui gaspillent du temps. Non, il était occupé avec les affaires de son père. Il était occupé avec quelque chose qui a une valeur, qui a une importance. Alors, avec quoi es-tu occupé? Avec quoi suis-je occupé? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Est-ce que tu recherches les choses du ciel et c'est ce qui te préoccupe, ce qui t'occupe. Certains sont occupés qu'avec les plaisirs du péché, peut-être même dans les maisons closes, où certains sont occupés à faire de l'argent, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise manière. Voilà tout ce qui les préoccupe, se préoccuper par l'argent. Ils ne sont pas préoccupés par les choses divines, par les affaires du Père. Mais là, dans l'histoire que nous avons lue, nous voyons Jésus qui est retrouvé dans le temple. Il était occupé avec les serviteurs de Dieu, il était occupé avec les choses du ciel, les choses d'en haut et non pas d'en bas. Parce que Jésus ne venait pas d'en bas, il venait du ciel. Donc il se préoccupait des choses du ciel. Peut-être tu as tellement de temps, peut-être même tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire. Alors, est-ce que tu as réalisé déjà que ton âme a besoin d'être occupée par les choses du ciel, les choses divines, ou est-ce que tu te satisfais des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde, l'amusement que nous présente le monde, voilà tout ce qui te préoccupe. Jésus était séparé de ses parents parce qu'il était occupé des choses du ciel. Mais toi, tu es séparé d'avec les gens du ces gens divins, on pourrait dire, parce que tu es occupé avec les plaisirs du monde. Alors, oublie ces plaisirs du monde, oublie ce avec quoi tu es préoccupé et reviens à Jésus. Occupe-toi des choses du ciel. Toi, jeune homme, jeune fille, sois réconcilié avec tes parents. Reviens là où tu devrais être. Reviens de ta vie de péché. Repens-toi. Sois prêt à t'humilier, à te courber. Et ne sois pas têtu, ne sois pas entêté et résister à ce que le Seigneur veut pour toi. Il y a des enfants rebelles, déjà 11 ans, 12 ans, 13 ans. Les parents blanchissent, ont les yeux, les cheveux qui blanchissent du jour au lendemain parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec leur enfant rebelle. Parce que l'enfant est polisson. L'enfant exige des choses, il ne veut que ce qu'il a envie. Si l'enfant ne reçoit pas ce qu'il veut, alors il fait un caprice et l'enfant ne recherche pas des choses divines, il n'est pas occupé avec les choses divines. L'enfant ne veut que ce qu'il veut, il veut que les choses aillent comme lui veut, Non, ce n'est pas des choses divines. Prends exemple sur Jésus. Jésus était occupé avec les choses d'en haut. Il était là dans le temple à poser des questions. Il n'était pas occupé avec les sujets qui divisent, à débattre et à se préoccuper de sujets qui ne construisent pas, qui n'élèvent pas ton état spirituel. Certains parents ferment les yeux sur ce que font leurs enfants, même dans ces temps de fin d'année, de vacances. Et alors, ils laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Ils sont capables de fermer les yeux sur leurs enfants, ce que font leurs enfants. Et ils ne se préoccupent pas de ce que leurs enfants soient occupés par les bonnes choses, par les choses comme Jésus, du Père. Et ici, nous voyons cet enfant dans le temple, posant des questions. Et il cherchait la sagesse des choses d'en haut. Alors, on nous a posé des questions ce matin. Où est l'enfant? Est-ce que l'enfant est toujours avec toi? Ou est-ce que cela fait longtemps que tu as perdu cet enfant? Cela fait longtemps que cet enfant a disparu. Cette question nous a été posée. Alors, il nous faut faire face à cette question. Il faut répondre à cette question. Où est l'enfant? Où est l'enfant aujourd'hui? Les bergers ont aussi demandé, les mages aussi ont demandé, où est cet enfant? Où se trouve cet enfant? Parce que nous voulons le voir, nous voulons le rencontrer. Les mages étaient préoccupés par cela. Malgré le grand voyage qu'ils ont fait, ils voulaient se prosterner et adorer, reconnaître cet enfant comme étant le roi, comme étant le sauveur, le Messie. Et nous, si nous avons perdu cet enfant, alors cela a un coût. Nous devons laisser tout et nous préoccuper à retrouver cet enfant. Cela n'a pas d'importance le temps que cela va durer, mais nous devons impérativement retrouver cet enfant si nous voulons un jour passer de temps avec cet enfant au ciel. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous accorde cette assurance, que nous puissions avoir cette assurance que cet enfant est toujours avec moi. Et peut-être même je ressens les mouvements, je ressens quand il bouge en moi. Non pas que nous soyons comme cette femme enceinte qui était capable de sauter, de faire toutes sortes de choses devant les foules, et pourtant l'enfant qui était en elle était mort depuis longtemps. Il était nécrosé, et peut-être même qu'il était sur le point de la tuer de l'intérieur, mais elle ne s'en rendait pas compte. Donc elle avait l'apparence que tout était bien, qu'elle était une future mère. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Et peut-être toi aussi, tu donnes l'apparence d'avoir cet enfant en toi, et pourtant, l'enfant Jésus est mort en toi depuis longtemps. Oh, que le Seigneur nous accorde la grâce de savoir, d'être sûr de savoir où est cet enfant. Et alors, nous voulons prier. notre Père céleste. Nous te remercions pour ta parole vivante. Merci pour ta grâce de nous rappeler que durant cette période de Noël, nous nous rappelons de ta venue, nous nous rappelons de ta naissance. Seigneur, nous voyons le besoin et la raison pour laquelle tu es venu. Nous voyons le besoin pour nous-mêmes, pour notre pays, même pour le monde entier, ce besoin que tu viennes et que tu vives. Et Seigneur, si nous te laissons en arrière et que nous nous séparons de toi, alors les choses n'iront pas bien. Rien ne sera couronné de succès si tu n'es pas avec nous. Aide-nous, Seigneur, que nous nous assurions que tu es avec nous, que tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous montres le chemin. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes pas, à te suivre et à faire l'œuvre de celui qui t'a envoyé, comme toi. Tu l'as fait, tu as fait l'œuvre de celui qui t'a envoyé. Ô Seigneur, fais grâce, fais-nous grâce, même dans ces temps de fin d'année, un temps de joie, et malheureusement pour beaucoup, c'est un temps de souffrance et de douleur, de tristesse à cause des drames qui se passent, à cause de ceux qui provoquent des accidents parce qu'ils sont sous sur les routes. Mais Seigneur, reste avec nous, conduis-nous, dirige-nous. Et tout cela, nous demandons à cause de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.